France Inter. Bonjour, ravi de vous retrouver dans Questions politiques, l'émission politique du dimanche sur France Inter, diffusée également sur France Info et en partenariat avec le journal Le Monde. Après l'élection de Bruno Retailleau il y a une semaine à la tête du parti Les Républicains, la droite semble relancée, capable de se réorganiser. Une victoire en tout cas écrasante qui a fait basculer instantanément le ministre de l'Intérieur dans le camp des présidentiables. Pendant ce temps, à gauche, tout apparaît beaucoup plus compliqué. Le NFP d'abord, le nouveau Front Populaire, l'aventure est désormais terminée. L'insoumis Mélenchon ensuite s'est sacrément abîmé, mais il n'a toujours pas l'intention de lâcher. Est-ce que la gauche doit et peut réussir à le contourner? Et surtout, comment? On en parle avec notre invité qui a rompu avec la France Insoumise il y a bientôt un an, qui s'avance de plus en plus vers une candidature à la prochaine élection présidentielle. François Ruffin est dans Questions politiques ce dimanche en direct et jusqu'à 13h.
Questions politiques. Karine Bécart sur France Inter.
Bonjour François Ruffin.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi Questions politiques ce dimanche.
Avec
pour
plaisir.
Vous interviewer, nous sommes trois. Nathalie Saint-Tric, je vais y arriver, de France Télévisions. Pardonnez-moi Nathalie, et bonjour.
Bonjour à tous.
Et Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour à vous aussi.
Bonjour Karine, bonjour à toutes et tous.
Alors on a l'habitude de commencer l'émission avec vos images de la semaine. On revient ensemble sur ce qui a marqué ces derniers jours l'actualité. Vous, François Ruffin, qu'est-ce qui vous a frappé par exemple en particulier?
J'ai choisi une photo en tout cas avec un champ, et devant, il y a un panneau marqué AB, agriculture biologique, parce qu'on fête les 40 ans de l'agence bio. Et en guise de cadeau, le gouvernement a décidé de supprimer les deux tiers du budget, c'est-à-dire de mettre à mort l'agence bio. Et moi, je recevais à ma permanence un agriculteur qui était découragé, parce qu'il avait fait le choix de sortir des phytos, et c'est un gros effort, et que derrière, les promesses n'ont pas été tenues. Il y avait une première promesse qui était de mettre 20% de bio dans les cantines. C'est pas fait. Il y a eu une crise, les marchés du bio ont plongé après la crise Covid, l'État n'est pas venu du tout au secours de ça. Et là, on a le choix de l'État, de détruire l'outil qui doit nous permettre de changer notre agriculture. Et je vois donc cette régression écologique sur le secteur de l'agriculture. Mmh. Je la regrette aussi sur les secteurs du bâtiment, puisque là, l'outil qui devrait nous permettre la transition, c'est MaPrimeRénov', dont on a décidé de baisser quasiment de moitié les crédits, dont on fait que les artisans et les particuliers se retrouvent dans un labyrinthe numérique et bureaucratique, et avec des délais de paiement qui s'allongent de un an et plus.
Donc
on a.
Donc vous dites décidément l'environnement, c'est mis de côté.
Ben oui, là il y a le stratégiquement, on devrait se donner le cap vers cette transition là. Et l'État devrait mettre en place les outils, les tenir dans la durée pour aider les professionnels du bâtiment, les professionnels de l'agriculture d'aller dans cette direction. Et au contraire, c'est un complet abandon.
Alors j'en profite quand même parce que vous le savez, demain débute à l'Assemblée une proposition de loi agricole pour lever les contraintes subies par la profession. Les insoumis et les écologistes dont vous faites partie ont déposé presque 3000 amendements. Vous me confirmez ce chiffre-là? Un peu plus de 2700, enfin entre 2700 et 3000. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, pardonnez-moi, parle d'obstruction pour empêcher le débat démocratique. Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je réponds d'abord que ça vient de la part d'un gouvernement qui pratique l'obstruction, et l'obstruction maintenant depuis 2 ans, sur les retraites, puisqu'il n'y a toujours pas eu la possibilité d'avoir un vote à l'Assemblée, et qu'à la moindre évocation de retraite à 64 ans, d'abrogation de la loi Macron, on a le déboulé de milliers d'amendements. Dire que sur la fin de vie, il y a 2600 amendements qui sont déposés et qu'on ne considère pas du tout que c'est de l'obstruction, que là, il n'y a pas d'amendements qui sont des amendements du côté groupe écolo, qui sont des amendements formels, mais qu'on est bien sur des amendements de fond pour un texte qui est passé de 9 à 27 articles. Et il faut aller sur le fond.
C'est pas ce qu'elle dit. Elle considère que ce sont des amendements qui transforment le terme.
Je vous dis pour le groupe écolo. Je vous dis pour le groupe écolo. D'accord ?
Parlez pas pour les insoumis.
Je parle
mais là,
pour
vous parlez d'Agnès Pannier-Runacher,
oui.
Nathalie
ou... oui.
D'accord.
Donc, et il y a... il faut aller sur le fond maintenant. Le fond, c'est que l'année dernière, et vous savez, moi je suis dans une région qui est agricole, donc les échanges avec les agriculteurs, je les ai tous les jours. Hier, j'étais à la fête de l'agriculture à Abbeville. Il y a eu un mouvement l'année dernière qui réclamait des choses. La première chose qu'on réclamait, c'était mettre entre parenthèses le libre-échange. Pas aller plus à fond dans le traité Mercosur, notamment. Là, dans la loi du plomb, il n'y a rien sur ce sujet-là. La demande dans la durée, c'est de bien vivre de son travail du côté des agriculteurs aussi, et donc il y a une répartition de la valeur ajoutée entre l'industrie agroalimentaire, la grande distribution, il n'y a rien dans la loi du plomb sur ce sujet. Donc ce qui reste, c'est le dumping environnemental. Et avec une molécule, qui est l'acétamipride, dont il a été démontré par des chercheurs, qu'elle se retrouve dans le cerveau des enfants et qu'elle a de la neurotoxicité. Voilà, parlons de fond. Mm-hmm. Parlons de fond. Okay. Et il y a eu un choix qui a été fait par l'Agence de sécurité européenne de l'alimentation qui vient dire c'est un danger possible, il y a une incertitude et donc qui a décidé
donc
de diviser par 5.
Donc vous dites qu'il y aura débat et voilà,
qui a divisé par 5 l'usage de ça. Moi, je veux dire qu'il y a une parole que j'entends des agriculteurs qui me paraît juste. Mm. C'est que quand on est en Picardie, c'est l'interdiction des néonicotinoïdes. On franchit la frontière, on se retrouve en Belgique et c'est maintenant en partie autorisé. Et donc, moi, je souhaite qu'il y ait une proposition de loi transpartisane, comme il y a eu sur le Mercosur, qui vient de dire fin de l'acétamipride, de cette molécule, partout en Europe.
Allez, autre image de la semaine, celle de Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, nouveau patron désormais donc du Parti Les Républicains. Et ça, c'est avec vous, Françoise.
Alors, élection dimanche de Bruno Retailleau, un corps électoral quand même très restreint, c'est moins de 100 000 votants, les votants LR, mais un effet quand même masse sur l'opinion, parce que c'est quand même une élection avec un score de sénateur, 74% pour Bruno Retailleau. Alors depuis... Interrogation, la droite est-elle de retour? Quelle droite? Est-ce que c'est la droite vendéenne ou est-ce que c'est la droite qui a l'habitude de pactiser avec le centre, comme l'a fait Bruno Retailleau pendant 10 ans au Sénat? Est-ce que le bloc central est ou non menacé? On assiste à une compétition sondagière entre Édouard Philippe et Bruno Retailleau. On voit le réveil de Gabriel Attal aujourd'hui dans Le Parisien, qui essaye de mettre en valeur l'autorité républicaine. Il y a une compétition dans ce camp-là. Cette compétition se joue exclusivement sur le thème sécuritaire et sur le thème de l'autorité républicaine. Donc il y a sans doute une polarisation de l'opinion là-dessus. Et ce que je vois aussi, c'est une quasi-absence du groupe de gauche dans ce débat qui est en train de monter en France sur l'autorité, le régalien, l'immigration.
Alors ça, on aura l'occasion évidemment d'y revenir pendant le cours de l'émission, évidemment. Mais une question quand même, l'arrivée de Bruno Retailleau à la tête du Parti Les Républicains, ça va changer quelque chose ou pas, François?
En tout cas, quand je vois qu'il a pour cri de guerre devant les LR, abat le voile, pour moi, ce n'est pas le rôle, c'est le rôle de personne, je pense, et on n'imagine pas un abat la kippa, et ce n'est pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur, d'un ministre des cultes qui doit être le gardien de la laïcité, c'est-à-dire qui est pas toute la place pour la religion, mais qu'il y ait une place, et une place qui soit faite en sécurité pour la religion. Et là, pour moi, il y a un dévoiement. Je veux dire, on a eu un autre grand Vendéen ministre de l'Intérieur, c'était Georges Clemenceau, qui était le fondateur de la loi sur la laïcité en 1905 avec Aristide Briand. On l'imagine mal, depuis Beauvau, crier « à bas la calotte ». Voilà. Donc là, il y a une prise à partie depuis le sommet de l'État qui, en vérité, est inquiétante.
On ne serait pas dans les églises.
Dernière image de la semaine avec vous, Nathalie. C'est le texte sur la fin de vie qui a été adopté.
C'est une image beaucoup plus consensuelle, ce qui peut faire du bien de temps en temps. Ou là, c'est une image de l'Assemblée, mais bon, c'est pas hyper. Comment dire, il n'y a pas énormément de gens dans l'hémicycle, mais on ne voit pas de bronca, on ne voit pas de gens qui hurlent, on ne voit rien. Et pour cause, on parle de la loi sur la fin de vie. Il est à remarquer quand même que là, pour le coup, entre les gens qui ont vécu ça personnellement, ceux qui ont eu des amis, des connaissances, ou ceux qui sont allés visiter dans les hôpitaux, des unités de soins palliatifs, chacun a vu quelque chose qui l'a marqué, qui l'a... Et ça a été salué par tout le monde, la qualité des débats. C'est-à-dire, d'abord, il y avait des gens, ensuite, on ne s'est pas invectivé. Non pas que le sujet ne soit pas un sujet extrêmement déchirant, mais parce que ça méritait peut-être ça, et puis c'est transpartisan. Et tout ça pour dire que maintenant, le texte qui va être voté, on a quand même l'impression qu'il est d'un grand équilibre entre ceux qui disaient que c'était la porte ouverte à, alors que c'est pas la porte ouverte à, c'est plutôt une possibilité d'avancer dans la volonté quand on est stade final, malade, capable de prendre sa décision soi-même avec une autonomie. Si on souffre, si le pronostic vital est engagé, et le fait que ça ne peut pas être fait comme on l'a entendu pour des gens qui étaient hostiles, par n'importe qui, que ça serait un début d'un eugénisme vis-à-vis des personnes âgées, des handicapés, et pourquoi pas qu'en gros on débarrasserait des Français qui ne servent à rien. Donc là, il me semble que c'est équilibré, que c'est un cas de sujet qui mérite que les parlementaires s'entendent, discutent sur le fond, et puis on va voir ce qui va être voté, mais on peut penser que c'est quand même bien équilibré, qu'il y a beaucoup de verrous, et que ça ne devrait pas horrifier quiconque.
Alors il y a deux textes, un sur les soins palliatifs, un sur effectivement la fin de vie, le droit à mourir. Vote solennel, effectivement, mardi à l'Assemblée. Vous allez voter comment, vous, François ?
Je pense que, comme ça vient d'être dit, il y a d'abord eu un débat respectueux, parce que toutes les positions en la matière sont respectables, et qu'on aboutit à un texte qui est équilibré, où il y a un certain nombre de garde-fous.
Là, vous parlez de la fin de vie.
Je parle de la fin de vie. Donc, je le voterai. Je mets une alerte, moi, sur le texte d'avant, sur les soins palliatifs. Parce que, normalement, les deux vont ensemble. On dit qu'il doit y avoir l'aide à mourir, vraiment, quand il y a eu les soins palliatifs qui ont été offerts, et que, malgré tout, il reste de la douleur physique, psychique, et qu'on n'en peut plus. Or, pour moi, en matière de soins palliatifs, le principe est déclaré. Il y aurait un accès aux soins palliatifs sur tout le territoire, pour tous les citoyens. Très bien, c'est la déclaration. Mais moi, j'ai un gros doute sur les moyens. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, c'est un malade sur deux qui n'accède pas aux soins palliatifs.
20% du territoire où il n'y a pas de...
On est 17e en Europe. Bon, bref, on est en queue de peloton. Mais surtout, on nous dit, voilà, il y aura plus 66% d'ici 10 ans. Mais ça comble pas, ne serait-ce que les besoins d'aujourd'hui. Entre-temps, il va y avoir au moins plus 20% de malades qui en ont besoin aussi, avec le vieillissement démographique. Il va y avoir de l'inflation. Donc je crains, moi, que d'ici 10 ans, on se retrouve grosso modo dans la même situation, avec un malade sur deux qui n'a pas accès aux soins palliatifs. Et je dis qu'il y a plein de sujets comme ça, où on a des grandes déclarations de principe, sur les violences sexistes et sexuelles, sur le handicap, on est tous d'accord. Mais quand il s'agit d'en venir aux moyens, ben, il y a beaucoup moins.
France Inter. Karine Bécart.
François Ruffin, vous avez tenté de réveiller la gauche cette semaine. Comme vous aviez su la mobiliser il y a presque un an, au soir des élections européennes, le président Macron venait d'annoncer son intention de dissoudre l'Assemblée et vous aviez appelé le soir même tous les partis de gauche à faire front ensemble, à bâtir un nouveau front populaire. Et le NFP était né cette semaine. Rebelote, j'ai envie de dire. Vous avez essayé de lancer l'idée d'une grande primaire de toute la gauche pour commencer à vous organiser à 2 ans de la prochaine présidentielle en 2027. Aucun chef de parti n'a répondu à votre proposition, à part Raphaël Glucksmann, pour Place Publique. Comment est-ce que vous réagissez et est-ce que vous maintenez votre proposition d'une primaire geyser ?
Oui, alors je dis primaire geyser, primaire de débordement, parce que moi, pour moi, le sujet est moins celle du départage, de se dire, voilà, c'est un tel ou une telle qui va être candidat pour la gauche, que de se demander comment on fait pour retrouver les gens par millions. Comment on fait pour que les 9 millions de votants du 7 juillet, eh ben, ils aient à nouveau la main et qu'on puisse entendre leur voix.
Mais là, tout de même, personne ne vous a répondu, je disais. C'est violent, ça, quand même, non ?
Pas du tout. Et je m'y attendais, parce qu'on n'est pas du tout dans le même schéma que le 9 juin au soir. Le 9 juin au soir, on était sous la pression. Il y avait la montre qui tournait. On savait que si ce n'était pas signé dans la semaine, ça ne se ferait pas. Et sur le choc de Jordan Bardella,
oui,
largement tête.
Attention. Le 9 juin, c'était un contre. C'était, on veut pas du Rassemblement National. Aujourd'hui, comment vous imaginez une primaire geyser, entre guillemets, avec un peuple de gauche qui a l'air quand même assez déprimé ?
Alors la dépression, vous savez, elle traverse tout le pays. La neurasthénie, elle est là. L'abattement est sans doute encore davantage à gauche. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'on se doit demander quel est l'outil. Qu'est-ce qu'on a comme outil pour rendre la main, pour que les gens retrouvent la voix ? Et je crois que la primaire est un outil intéressant pour ça.
Mais bon. La primaire, ça n'a jamais très bien fonctionné. Alors, c'est bizarre que vous reveniez à une primaire quand même,
donc,
non ?
Ça se fera. Pour moi, ça se fera. Parce que le désir profond du peuple de gauche, on va venir aux deux camps qui, à gauche, veulent le retour des irréconciliables. On va revenir à la guerre des gauches.
Qu'est-ce qui fait qu'on peut se lever, que le peuple de gauche se lève ? En fait, c'est ça.
La perspective d'une victoire et la crainte que la main soit laissée au Rassemblement National, que la porte lui soit ouverte pour l'Élysée. Qu'est-ce qu'on a là ? On a une gauche qui joue en deuxième division, avec ses divisions justement. Si on veut jouer la Ligue des Champions, est-ce qu'on croit qu'on va y arriver en étant déchiré, divisé, et que le haut du jeu sera laissé à Jordan Bardella, Marine Le Pen, Bruno Retailleau, bref, l'extrême droite dans sa diversité ?
Mais attendez, Nathalie, ce qu'on comprend pas, est-ce que c'est pas un problème de pourtour, enfin de borne ? C'est-à-dire qu'on peut très bien comprendre que les Français aient besoin de s'exprimer, qu'il y ait une élection. D'ailleurs, ça peut s'appeler la présidentielle, cette élection. Mais quand dans une primaire, vous mettez des gens qui ont tant de dissemblances, c'est-à-dire que vous la faites aller de Philippe Poutou
à
François Hollande. Regardons même la position de NPA à l'époque, au moment du Hamas. Comment est-ce que ça peut tenir debout de mettre des gens, de
aussi
départager, alors que vous parlez tous du fond tout le temps ? alors que vous êtes absolument en désaccord total. Est-ce qu'il n'y a pas plus de logique, par exemple, que François Hollande sera avec le MoDem et que vous, vous soyez avec LFI ou pas?
S'il y en a qui veulent participer à des primaires du centre, ils le peuvent. D'accord.
Mais de la gauche, si elle ne c'est même pas la même, c'est pas la même gauche du tout.
Il y a un programme qui, pour moi, ne sert pas de bible, mais qui sert de base, qui est celui qui a été signé lors des dernières élections. On a.
L'Europe, le nucléaire, l'OTAN.
Alors, on laisse répondre François Ruffin.
Je vous réponds sur tout ça.
On vous écoute.
Mais vous savez, l'union s'est faite à des moments où ça paraissait le plus impossible. Je le dis, le 9 juin au soir, qui l'aurait parié quand même? Qui l'aurait parié alors qu'ils avaient passé des mois sur quatre listes différentes à se taper les uns les autres sur Twitter? Et pourtant, ça s'est fait parce qu'il y a eu la pression des gens. Mais regardez, le programme commun des années 70 entre le Parti communiste et le Parti socialiste. Un Parti socialiste qui regarde vers les USA, un Parti communiste qui est lié à l'Union soviétique. Et ben, pourtant, ça se fait.
Peut-être parce qu'il y a Mitterrand, hein.
Il peut y en avoir d'autres.
Mais là, ça s'est fait sous la pression du Rassemblement national.
Et vous croyez que cette pression, elle a diminué?
Non, elle n'a pas diminué. Non. Mais est-ce que ça peut être le seul argument?
Je ne dis pas que ça soit le seul argument.
Parce que la question des arguments...
Par exemple, vous dites sur l'Europe. On va fêter les 20 ans du traité constitutionnel européen, enfin du référendum, où je rappelle, puisque j'étais un partisan du non, évident à l'époque, 80% des ouvriers à l'époque, 71% des chômeurs, 67% des employés ont voté contre la concurrence libre et non faussée, contre la libre circulation des capitaux et des marchandises. Bon, mais depuis ce temps-là, qui était un temps où on avait un non dur, pour ainsi dire, face à un oui très europhile, très européen, il me semble que les contours à gauche, mais peut-être dans le pays, sont devenus plus flous. Parce que côté oui, on voit bien que cette Europe, elle est profondément à transformer pour devenir plus juste. Et côté non, on voit bien que l'Europe, pendant le temps du Covid, a su se bouger, a su changer, a su se modifier pendant ce temps-là. Et qu'aujourd'hui, face à l'Empire chinois et face à l'Empire américain, on a besoin d'une Europe puissance. Donc il me semble que les points de divergence sont devenus beaucoup plus flous aujourd'hui.
Avec la guerre ?
Avec la guerre, mais qui prétend aujourd'hui qu'il faut lâcher l'Ukraine? Pas moi. Donc, s'il s'agit de parler de ça, il me semble que les points d'accord à gauche, il y a un point d'accord sur Gaza, j'espère qu'on y viendra, mais sur le fait qu'aujourd'hui, il faut en finir avec le silence, qu'il faut en finir avec l'inaction, qu'il y a des mesures qui sont à prendre. Moi, je plaide pour, quand on a 2 millions d'affamés dans la bande de Gaza...
Oui, on va parler de Gaza, mais j'aimerais, on commence l'émission, revenir quand même sur
les points
cette primaire.
Pardonnez-moi, parce que l'on sait... Et est-ce que tout ça mériterait pas un débat? Je lis ce que Raphaël Glucksmann raconte sur Arcelor. À mon avis, il connaît pas le dossier.
La nationalisation qui est plaidée pour certains, aide européenne et cohérence européenne... Pour Raphaël Glucksmann.
Je vois qu'il ne connaît pas le dossier parce qu'il dit que Arcelor aurait touché 850 millions d'euros pour la décarbonation, ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont rien touché, ils refusent de le faire. Mais par exemple, un vrai débat sur.
Le budget, la fiscalité.
Non, attendez, pardonnez-moi, je vous coupe.
Sur est-ce qu'on taxe l'héritage à partir de 5 millions, est-ce qu'on prend tout, sur un vrai débat sur l'Europe. Sur quelle Europe on a besoin, quelle Europe on veut, comment on désobéit ou pas.
Non mais s'il vous plaît François, on ne va pas parler de l'Europe, d'ArcelorMittal dans le désordre. On va aborder,
on va aborder tous ces points, j'espère.
J'aimerais juste quand même qu'on torde le cou à cette idée de primaire Gezer. Et avant cela, je voudrais vous faire écouter le député insoumis Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances à l'Assemblée. Et il était hier matin l'invité de la matinale de France Inter.
Pourquoi une primaire n'est pas possible? Parce que François Ruffin dit, lui, moi, si c'est Hollande et Glucksmann qui gagnent, je me range derrière eux. Bon, ce qui me paraît totalement aberrant, parce que moi, je vote pour un programme. Le programme, c'est le programme de rupture. Et c'est de mettre la personne qui est le plus capable de le défendre et de gagner ses élections. Il me semble que le mouvement qui a 75 députés, qui a 400 000 sympathisants, 100 000 adhérents, et qui, bon an, mal an, depuis quelques années, a montré sa force, il me semble normal que le candidat à la présidentielle de ce courant, de cette mouvance qui a montré qu'elle était capable presque d'aller au deuxième tour en 2022, ça soit LFI. Voilà, ça, je pense, c'est la priorité. Et aujourd'hui, dans LFI, si vous me demandez l'autre question, je pense que Jean-Luc Mélenchon est la personne la plus apte et la plus capable pour nous faire gagner.
Voilà. Donc, pardonnez-moi, mais on n'a pas tout dit sur cette primaire, et la question, elle est quand même importante. Jean-Luc Mélenchon, on en fait quoi? Est-ce qu'on peut organiser une primaire sans qu'il y participe?
Je veux partir d'ailleurs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le grand tour de ma circonscription et je vais écouter les gens. Qui j'entends hier ? J'entends une dame qui travaille à l'hôpital, qui travaille, et qui peut pas laisser sa fille à la cantine parce que le repas est trop cher à 3,80€. J'entends une retraitée qui a passé sa carrière comme assistante maternelle et qui, avec ses 1 039 euros, doit aller au Secours Populaire. J'entends un cadre...
Ok, on a compris.
Non, j'entends un cadre de la SNCF, musulman, né à Amiens, qui est un dirigeant d'un club de foot, donc qui tient la République et les services publics, et qui me dit, vu le climat, je dis à mes enfants, ne vous projetez pas en France, projetez-vous dans les études, mais ne vous projetez pas en France.
Donc ça veut dire quoi ?
Ça veut dire que voilà pour qui on se bat. Voilà pour qui on doit changer un peu la vie et pour qui on doit changer le pays.
Il faut que la gauche, elle soit unie
et
pour
ben,
y arriver.
Eh bien oui, il va de soi que dans ce temps-là, si on veut changer ça, il nous faut être les plus unis possible. Alors vous allez mentionner tous ceux qui sont des diviseurs. Mais mentionnons...
Non, mais celui-là, il est particulier, quand même.
Non, il y a un argument Françoise. Qu'on entend, qui est notamment utilisé par François Hollande, là, rapporté dans le Figaro samedi, où il dit, au fond, qu'est-ce qui distingue Ruffin de Mélenchon ? C'est à peu près la même chose. Et au fond, il y a ce courant-là, qui n'est pas compatible avec le nôtre. Et il a déjà une incarnation. Donc vous, qu'est-ce qui vous distingue très profondément de Jean-Luc Mélenchon ?
Mais est-ce que c'est le sujet ? Est-ce que vous pouvez pas regarder plutôt tous ceux qui veulent faire ensemble ? Vous savez, quand le 9 juin, ça s'est fait, on avait déjà des deux côtés. On avait déjà Jean-Luc Mélenchon qui disait on leur a mis une tannée, qui était très fier de son résultat, même si c'était 25 points derrière Jordan Bardella. Et on avait Raphaël Glucksmann qui disait la même chose. Pourquoi ça s'est fait ? Pourquoi ça s'est fait ? Parce qu'il y a eu Olivier Faure, parce qu'il y a eu Marine Tondelier, parce qu'il y a eu Fabien Roussel, parce que... J'avais lancé Fonds Populaire et parce que en 24 heures, il y a eu 400 000 personnes qui ont signé une pétition pour dire on veut l'union. Et ben mon pari, c'est un pari, c'est que il y aura la même pression à l'union. Il y aura le même désir mais d'union profond.
Allons jusqu'au bout. Vous voyez bien que cette union qui a essayé de tenir quand même depuis 2017, il y a quand même une tentative d'unir les gauches. Ça s'est désuni. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait que ça ne peut pas tenir ?
Mais j'envoie les forces centrifuges. Voilà. Maintenant, regardez les forces centripètes. 70 maires, socialistes, communistes, écologistes, qui signent une tribune pour dire « Nous voulons une candidature commune sur la base d'un programme de rupture pour changer concrètement la vie des gens. » Voilà. Nous voulons une candidature commune sur la base d'un programme de rupture pour changer concrètement la vie des gens. Eh ben,
C'est ce que vous appelez une rupture tranquille.
C'est ce que j'appelle la rupture tranquille. Il n'y a pas besoin de s'énerver parce qu'on a les Français qui sont d'accord avec nous. Si on dit qu'il faut l'indexation des salaires sur l'inflation, les Français sont d'accord avec nous. Si on dit qu'il faut maintenant imposer les hyper-dividendes, les Français sont d'accord avec nous. Si on leur dit qu'il faut un référendum d'initiative citoyenne, les Français sont d'accord avec nous. Il y a tellement de points dans notre programme sur lesquels on a 80-90% des Français qui sont d'accord avec nous. Donc du coup, il n'y a pas besoin de crier.
C'est pas vous qui criez, c'est manifestement vous êtes. Pourquoi ne pas dire carrément que vous pouvez essayer de faire les choses avec toutes les bonnes volontés, en disant qu'il y a un certain nombre de cadres dans certains partis qui ont décidé de vous faire la peau, non pas à vous spécifiquement, mais aux socialistes en leur mettant des candidats face aux municipales et en leur disant s'il y a des législatives, on vous mettra systématiquement des gens pour vous faire perdre. On en est là, on n'en est pas à une bonne volonté générale.
Là, les forces centrifuges, elles fonctionnent moins bien. C'est la pâte, Nathalie.
Centripètes, vous voulez dire, sans doute.
Bah là, elles sont centripètes. Ouais. Les forces centrifuges auxquelles vous appelez, elles ne sont pas là.
Ce que je vous ai dit me paraît très compliqué, je vous assure. Mais oui, moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a dans chaque parti des identitaires et des unitaires. Et je dirais que même des militants peuvent être traversés par les deux et avoir une partie unitaire, une partie identitaire. Eh bien, je fais le pari que l'unitaire l'emportera. Je fais le pari que dans tous les partis, dans les mairies, mais surtout dans le pays, il y a des hommes et des femmes de bonne volonté. Des hommes et des femmes de bonne volonté qui, peut-être qu'on fera pas le meilleur des mondes, mais qu'on peut le transformer un peu en mieux.
Vous le faites tout seul, sans parti, sans mouvement sans...
Non, je vous ai cité des noms.
Quand vous dites que vous
pouvez l'emporter... Quand Lucie Castet appelle le 2 juillet à nous rassembler, qu'il y a un oui de Marine Tondelier, qu'il y a un oui de Olivier Faure...
Qui sera peut-être pas réélu à la tête de son parti.
Que j'y serai, qu'il y a un oui de Clémentine Autain. Il y a des gens qui ont envie de faire, et de faire ensemble pour sortir notre pays de l'ornière.
Le député de la Somme, François Ruffin, est notre invité ce dimanche dans Questions politiques. Il y a un rapport qui a fait beaucoup de bruit cette semaine. Un rapport intitulé « Frères musulmans et islamisme politique en France ». Il a même fait l'objet d'un conseil de défense, mercredi organisé autour d'Emmanuel Macron. Et mercredi après-midi, voilà ce que Bruno Retailleau expliquait devant ses anciens collègues du Sénat.
Bien sûr que ce rapport est alarmant. Il concerne l'islamisme. Je tiens à dire, du reste, qu'il faut séparer les menées islamistes d'une pratique de l'islam qui est compatible avec la République. Il faut, bien entendu, prendre ce problème à bras-le-corps. Le rapport indique qu'il y a deux menaces. Une menace contre les intérêts fondamentaux, notamment les régimes républicains de nos institutions, mais aussi de la cohésion nationale. Et croyez-moi, nous avons la ferme intention de combattre le frérisme et l'entrisme.
Votre réaction, François Ruffin, est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter ? Est-ce que l'entrisme islamique est une réalité en France ?
Il y a deux choses. D'abord, moi je suis partisan de la laïcité, de la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Ce qui veut dire que à la fois, il doit y avoir une place pour la religion, la pratique religieuse, et il ne doit pas y avoir une invasion de la pratique religieuse. Donc ça, c'est le cadre qui est posé. Maintenant, moi j'ai le rapport, il y a le rapport et il y a l'usage politique du rapport. On a un rapport qui est finalement, parce que on a là des dirigeants politiques qui font tout l'inverse des recommandations du rapport.
C'est-à-dire,
que dit le rapport ? Le rapport est dit qu'il nous faut une action dans la durée dans les quartiers de l'État. À quoi on assiste ? Au contraire, à un État qui, dans la durée, s'en retire. Ça a été le plan Bordeaux qui est tombé à l'eau, mais c'est les contrats adultes relais 5000 qui sont supprimés. Ce sont les crédits politiques de la ville qui baissent. Et très concrètement, à Amiens, ce sont une opération qui s'appelle quartier d'été pour les gamins, dont les crédits tombent de 40%.
Mais est-ce que la réponse n'est que sociale ? Est-ce qu'il n'y a pas
de mettre de l'argent pour éviter...
Je vais y venir, mais disons que ça va à l'encontre des recommandations du rapport. Quand l'an dernier, je propose qu'il y ait un projet de loi vacances pour tous, c'est avec le souci de construire la République, qu'il n'y ait pas un temps, le temps de l'école fait du commun, le temps des vacances devient un temps d'inégalité. Eh ben pour que, quand on soit dans les clochers ou dans les quartiers, on puisse voir la mer, on puisse voir la montagne, qu'on se mélange et qu'on fasse concrètement la République. Et dire que dans ce temps-là, on a des élus locaux, on a des associations qui sont des héros, parce qu'on les met en première ligne dans des quartiers difficiles, et que l'État, à la place de les renforcer, chaque jour les affaiblit, chaque jour leur complique la vie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est dans le rapport, c'est que le rapport recommande la reconnaissance de la place de la religion musulmane en France. Ils le disent. Ils disent, voilà, il faut qu'il y ait l'enseignement de l'arabe à l'école, par exemple. Ou alors, il faut qu'il y ait des carrés musulmans dans les cimetières.
Ok. Donc,
mais oui. Et là, on a tout l'inverse chez nos politiques, qu'il s'agisse de M. Retailleau, de M. Attal, ou même de M. Macron, qui en fait un conseil de défense, comme si on était immédiatement attaqué par un virus. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que plutôt que d'œuvrer à faire ensemble, on décide de stigmatiser et de faire une compétition.
Donc l'État met lui sur le feu. Stigmatiser quand le rapport, certes, préconise un certain nombre de choses qu'on peut trouver saines, effectivement, les carrés musulmans dans toutes les villes, de manière à ce que les musulmans puissent être enterrés correctement, l'enseignement de l'arbre. Mais il tire quand même une sonnette en disant, attention, il y a un entrisme systématique, c'est-à-dire des gens qui profitent d'un certain nombre de failles pour faire avancer leur idée, pour être une religion de conquête. On peut trouver ça bien ou pas bien, mais c'est quand même quelque chose. Quand vous dites qui alerte aussi sur le fait que les petites filles de 5 à 6 ans portent le voile, enfin que c'est de plus en plus tôt, et que vous dites que c'est comme le baptême, c'est pas exactement la même chose, puisque le voile, c'est dérober la vue des femmes à la vue des hommes.
C'était sur le thème imposition. D'accord ? Mais bon, qu'importe.
Parce que ça revient que quand il y a fait le rapport...
Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quel est l'objectif des islamistes ? Parce qu'ils existent et ils ont un objectif. Leur objectif, c'est de séparer les musulmans de la France, de les séparer de la République. Comment on y répond ? Alors, il y a des alliés objectifs traditionnels qui est l'extrême droite, qui elle aussi veut séparer les musulmans de la République et les séparer de la France. Mais quand on fait toute cette campagne avec Abat le voile, quand on a...
Il y a de l'entrisme municipal aussi.
Quand le discours public, ça produit une souffrance immense chez nos compatriotes
musulmans.
Qui a dit
à bas le voile ?
Pardon ?
À bas le voile, Gabriel Attal a proposé quelque chose qui était interdit d'ailleurs par tout le monde.
Le ministre de l'Intérieur, ministre des cultes, prononce à bas le voile. Je suis désolé, mais ça produit ce climat permanent, à la fois médiatique et politique, produit une souffrance chez nos compatriotes musulmans.
Et vous considérez aussi que Gabriel Attal, quand il demande la suppression du voile pour les petites filles, enfin pour les jeunes filles de moins de 15 ans, ça contribue aussi à ça ?
Je considère que ça participe
il
d'une,
protège pas
d'une,
les,
course,
les
d'une course à l'échalote. Je lui demande, est-ce qu'on va faire la même chose sur la kippa ? D'accord ? C'est tout. Mettons à égalité dans ce cas-là. Bon, mais moi je veux vous dire surtout, il y a autre chose. Le grand spécialiste de la laïcité dans notre pays, historien Patrick Veil, ne cesse de rappeler que dans la loi de 1905, il y a un volet pénal, il y a un volet répressif, qui donne la possibilité au ministre de la Justice d'adresser une circulaire au procureur pour qu'il y ait des enquêtes, qui ont des instructions qui soient menées quand des atteintes à la laïcité, quand des pressions religieuses sont exercées. Or, pas une seule fois, Gérald Darmanin n'a activé ce volet de la loi 1905, pas plus que ses prédécesseurs. Ce que je veux dire, c'est que à la place d'inventer en permanence des nouvelles lois, peut-être que cette loi qui a été fabriquée il y a un siècle maintenant, cette loi qui a été pesée par Aristide Briand et Georges Clemenceau, on pourrait l'appliquer. On pourrait en faire un outil pour l'appliquer et pour regarder, parce qu'ils existent, dans les cas de pression religieuse, eh bien qu'il y ait une politique pénale qui soit mise en place. Alors, plutôt, mais pourquoi on le fait pas ? Pourquoi on le fait pas ? Parce que là, ça permet de faire de la polémique et de la politique.
Voilà. Mais alors, c'est parfois justement difficile à faire. IQ Sense, ça a pris du temps. Il y a le contrôle du juge. Mais pour fermer des établissements sous contrat qui sont jugés douteux, on est obligé de tordre le cou à la loi et de considérer que c'est parce qu'il y a un problème de sécurité comme de normes incendie. Dans ce qui est le cas de lycée de Colombes, c'est exactement ce qui s'est passé. Et parce que manifestement, c'est pas aussi facile de lutter contre cette forme de tentative de comment dire, d'entrisme. Il y a pas.
Mais dans le quotidien, parfois, c'est compliqué. Enfin, un homme qui vous salue pas, on vous serre en pas la main quand vous êtes une femme, par exemple.
Mais vous n'allez pas.
On va pas le sanctionner pour ça.
Mais non.
Et en même temps, ça signifie déjà quelque chose.
Et ben donc, ça veut dire que là, il y a. Pour moi, c'est imposer la République partout. Ça veut dire quoi ? Mais on va pas l'imposer. C'est comme on a eu la même discussion. Ça me rappelle sur la loi narcotrafic où je disais il y avait un volet répressif pour les politiques pénales. Pourquoi pas ? Mais il doit y avoir un deuxième volet. C'est comment on fait pour installer la République dans les quartiers ? C'est ce que je dis. Ben voilà, si les gamins non seulement il y a à l'école, mais qu'il y a le centre le soir, et que le... Vous savez, moi je me bagarre sur Amiens, chez moi, et je le dis au préfet. Je me bagarre parce qu'il y a des quartiers où je vois que ça n'est pas fait par des laïcs, ça n'est pas fait par l'État, ça n'est pas fait par les associations. Quand l'État se retire, qu'est-ce qui reste ? Eh ben, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait la présence des associations de... Et ces gens-là, on les décourage tous les jours. Ce sont nos piliers. Ce sont nos piliers qu'on doit renforcer et qu'à la place, on affaiblit.
Françoise, dernière question avant de passer à l'économie.
Vous plaidez bien votre cause, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème de la gauche d'avoir donné l'impression, ces dernières années, d'avoir abandonné, au fond, une partie du combat pour la laïcité, la République, l'autorité républicaine, qui fait qu'aujourd'hui, elle se retrouve un peu sur la défensive. Et comment vous pouvez, au fond, contre-attaquer là-dessus ?
Mais ça n'a jamais été mon cas, déjà. Personnellement, je n'ai jamais rien abandonné sur la laïcité. Mais quand nos compatriotes musulmans se sentent menacés, ils doivent se sentir protégés, et se sentir protégés par le sommet de l'État. Or, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Donc il faut tenir des deux côtés. Il faut dire, il y a une place pour la religion, mais la religion ne doit pas devenir envahissante et elle doit rester à sa place.
Ça, vous le dites très...
Mais je l'ai dit de manière constante et avec conviction.
Est-ce que tout le monde l'a suffisamment dit à gauche ?
En tout cas, ma position est très claire et je veux que tout le monde se sente bien dans ce pays. Vous savez, je suis bonheuriste, moi. Je suis pour le bonheur. Voilà, je suis pour la levée des obstacles au bonheur. Eh bien, je vois qu'aujourd'hui, il y a un discours public, un discours médiatique et politique qui rend des gens malheureux. Et j'ai envie que d'autres obstacles sur l'émancipation de la femme soient levés également.
François Ruffin, les taxis, changeons de sujet, se sont mobilisés pendant 6 jours. Ils ont rencontré hier le Premier ministre François Bayrou qui s'est engagé à retravailler donc la convention sur le transport sanitaire. Pour l'instant, les syndicats de taxis maintiennent la pression. Est-ce que vous soutenez le mouvement de ces taxis qui râlent donc contre la baisse de la prise en charge du transport sanitaire qu'une partie de ces taxis assure? Est-ce qu'il y a eu des abus? Et est-ce que dans le contexte budgétaire dans lequel on est aujourd'hui, il va falloir redéfinir quand même quelques règles?
En tout cas, la question budgétaire et fiscale, elle doit être posée de manière beaucoup plus large, et ça peut pas être un petit coup, une tentative chez le retraité, une tentative chez les taxis. C'est pas comme ça qu'on va résoudre le grand problème qui le note. Je rappelle que là, on va encore avoir cette année plus de 5% de déficit public. Si c'était la gauche qui faisait ça, on parlerait du Titanic. Et ça va être la troisième année d'affilée, et ça va être même pas avec...
Enfin, tout le monde a demandé pendant des années, toutes les dernières années, c'était unanimité pour qu'on dépense plus sur les bandes gauches, sur les bandes droites, sur les bandes extrêmes droites.
Et tout ça se fait avec,
et donc
même,
sur
pas,
le transport sanitaire,
avec même pas de l'investissement.
On y touche
pendant tout
pas.
Ce temps-là, c'est même pas une politique d'investissement. Mmh. Donc, je peux vous dire comment je souhaite régler ça. Mais le sujet sur les taxis, il déborde la question des frais. C'est quoi? C'est est-ce qu'on veut ubériser ou pas le transport de malades? Voilà la direction, en vérité, dans laquelle on s'inscrit. Et je le dis, moi, il y a des professions qui sont comme ça, des professions populaires, et qui permettent encore de gagner correctement sa vie. Ce qui est le cas des taxis, même s'ils ont déjà été attaqués sur le transport tout court. Eh bien, je suis évidemment solidaire
est-ce que c'est normal que ce soit la Sécurité sociale qui paye, en fait, qui assure une partie du chiffre d'affaires des taxis? En fait, c'est ça le sujet aussi.
Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, sans discussion avec les principaux concernés. Ça doit se faire avec un cap, en se disant, ben voilà, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, voilà comment on veut que fonctionne le transport de malades dans notre pays. Mmh. Parce que, vous savez, il y a une autre profession qui est malade à l'intérieur. Ce sont les ambulanciers. Faut voir les horaires qu'on leur demande de faire. C'est 55 heures une semaine, c'est 23 heures la semaine d'après, et sans qu'il y ait du salaire en conséquence, parce qu'on a instauré chez eux la modulation. Mmh. Donc ce sont comme ça des professions qui sont liées au monde de la santé et qu'on a aujourd'hui profondément déstabilisées. Quand vous me connaissez, vous savez que la question de la stabilité, et en particulier la stabilité dans le travail, est une question centrale. Il faut que les gens puissent avoir le travail comme cœur assuré de leur existence et qu'ils puissent s'appuyer dessus. Eh bien, si on le déstabilise d'une année sur l'autre, si on fait qu'on a des horaires...
Comment on fait avec des déficits pareils? C'est-à-dire, comment vous assurez cette stabilité?
Là, ça pose la question de qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vais vous dire, je suis pour des états généraux de la fiscalité. De la même manière qu'en 1788, le roi avait vidé les caisses du royaume parce qu'il avait mené l'accord d'indépendance aux États-Unis pour se venger de notre ennemi héréditaire, l'Angleterre, eh bien, il se retrouve avec des caisses vides. Qu'est-ce qu'il fait pour lever de nouveaux impôts? Il convoque les états généraux.
Et qu'est-ce que ça va changer, les états généraux? Parce que pour le coup, la situation, on la connaît quand même. Là.
Non, mais les états généraux font qu'aujourd'hui, tout le monde refuse un nouvel impôt parce que personne ne comprend plus rien aux impôts. Et parce que ça apparaît comme étant immensément injuste, et de fait, ça l'est. Mais du coup, vous voulez toucher aux retraités...
Donc vous voulez une remise à plat fiscal.
Il faut une remise à plat complète aujourd'hui du système fiscal. Et je dirais, c'est la clé de voûte. Parce que c'est par là qu'on a des moyens pour...
Donc, on est d'accord là-dessus. Au-dessus de 5 millions, on prend tout, c'est ça votre slogan?
Ouais.
C'est-à-dire, on taxe l'héritage au-dessus de 5 millions.
Je peux vous dire ce que je ferai sur les dividendes, puisque aujourd'hui, les impôts, le capital est moins taxé que ne l'est le travail. Non, à peu près 50% moins que ne l'est le travail, ce qui est quand même un gros souci dans notre pays. Mais je pense que tout ça ne sera pas accepté. Même s'il y a un président de la République, même s'il y a une assemblée, tout ça, de gauche... Tout ça ne sera pas accepté, il y aura des points de blocage dans le pays. D'où, pour moi, des états généraux qui donnent un siège à Bernard Arnault, qui laissent leur place aux entrepreneurs pour venir expliquer quels sont les soucis qu'eux-mêmes ils ont, mais qu'on ait devant les Français une remise à plat de la fiscalité, comment elle fonctionne et comment on veut vers quoi on veut aller. Mais on y arrivera. On n'y arrivera pas par petits bouts en touchant un coup la taxe d'habitation, ainsi de suite.
C'est une présidentielle, ça, où vous chacun.
Eh bien, je suis là pour quoi?
Mais je ne vous ai pas dit que
là. Vous êtes là pourquoi? Pour la présidentielle?
Bien sûr, vous disiez.
D'accord, vous êtes candidat à l'élection présidentielle.
Je suis par le biais d'une primaire, c'est très clair. Je souhaite être le candidat de la gauche à l'élection présidentielle et je pense que la question de la fiscalité est la clé de voûte qui permet de rendre des moyens à l'État et rendre un sentiment de justice. Madame Bécard, vous savez très bien que vous êtes à peu près deux fois moins taxé que ne le sont les grandes fortunes de notre pays. C'est-à-dire qu'il y a une double injustice aujourd'hui, c'est qu'elles hyperconcentrent les richesses, les 500 fortunes, posaient l'équivalent de 5% du PIB il y a 30 ans. C'était 20% à l'arrivée d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est plus 45%. Première injustice sur la répartition. Et ensuite, on a un impôt qui pèse bien davantage sur vous, sur les ambulanciers dont je viens de parler, que sur les
taxis. Vous souvenez
une toute dernière question sur les taxis.
Pour les taxis, vous dites, il faut négocier, on peut pas prendre.
C'est ce que va faire François Bayrou.
Alors, c'est ce qu'il va faire.
On pourrait le faire avant qu'il y ait des menaces de grève.
Est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a quand même peut-être des choses à voir dans le transport sanitaire? C'est-à-dire faire en sorte qu'on peut peut-être mettre deux personnes dans un taxi sans qu'on nous dépeigne une situation où il y a des gens qui sont limite soit palliatifs, qui sont serrés comme des sardines à 25 dans un taxi. Est-ce qu'on ne peut pas, dans ce pays, sans menacer tout de suite du blocage, voir, parce que finalement les économies ne sont pas énormes, mais elles peuvent par petits bouts, en attendant la présidentielle, faire avancer les choses. Est-ce que vous diriez au taxi, mais franchement, là, les discussions sont ouvertes, allons-y, on va regarder si on ne peut pas, de bonne volonté.
Mais je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est pas seulement de mettre les taxis face à l'État. Il faut que quand je propose une primaire pour dire il doit y avoir de la démocratie.
Non, on peut pas débattre de tout sans interruption avec tous les Français, 168 millions.
Vous pouvez mettre les ambulanciers autour de la table. Vous avez non pas une réflexion sur qu'est-ce qu'on va prendre au taxi.
Et les VTC.
Mais sur comment on veut que fonctionne le transport sanitaire dans notre pays. Mais il faut élargir l'angle.
Alors, on va parler un peu de dossier diplomatique très rapidement, parce que le second invité est déjà rentré sur le plateau. Première question sur Gaza. Comment on arrête la guerre au Proche-Orient, François Ruffin? Qui peut y arriver? Qui peut le faire?
En tout cas, je sais quel est le rôle de la France dans tout ça.
Qu'est-ce qu'elle peut faire?
La France pourrait alors avoir une résolution aux Nations Unies pour demander un cessez-le-feu immédiat et pour demander la fin des colonies en Cisjordanie. Mais la France pourrait mener un embargo sur Israël, comme on l'a fait pour l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid.
Vous trouvez le président de la République trop timide, qui ménage la chèvre et le chou?
Ça fait 18 mois. D'accord? Aujourd'hui, on a 2 millions de personnes qui ont été déplacées, qui sont maintenant affamées. On sait que chaque jour qui passe, ce sont des centaines de civils qui sont tués dans des bombardements. Et tout ça, sous les yeux du monde, et avec tantôt le silence, et quand c'est pas du silence, c'est de l'inaction. Sans sanctions. Sur la Russie, on y viendra, mais on va être au 17e train de sanctions. On n'a toujours pas pris la première sanction sur Israël.
Mais quand la France demande là à ce qu'on revoie l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, il fait le boulot, là, le président de la République, non?
On peut commencer par là.
Bon.
On doit dire, nous, on n'en voit plus rien en Israël. Nous, on refuse qu'il y ait la moindre pièce de matériel militaire qui aille là-bas.
C'est rien, de la même manière, ce qu'on envoie.
Ça transite encore.
Ça serait purement symbolique, ça ne changerait rien.
Et on peut refuser des visas. Quand il y a des amis de Benjamin Netanyahou, qu'ils soient politiques, qu'ils soient culturels ou qu'ils soient sportifs, qui demande.
Donc on a la main qui tremble, c'est ça que vous dites?
Eh bien, il faut dire non, vous ne viendrez pas. Vous savez, moi je voulais aller en Israël et en Palestine pour rencontrer des camarades israéliens et palestiniens qui ensemble travaillent à la paix. Le gouvernement israélien a refusé mon visa. Eh bien, pourquoi on fait pas de même pour eux? Donc là, il y a une inaction. Et ça fait maintenant 18 mois que ça dure.
Mais attendez, Emmanuel Macron a quand même évolué. Quand il caractérise l'attitude et la politique de Benjamin Netanyahou de honte, quand il se fait d'ailleurs, il a la réponse de Netanyahou qui lui dit qu'il est à côté du Hamas, qui est quand même d'une grande finesse, il y a quand même, on n'est pas en train de considérer que tout est dans tout et réciproquement.
Mais on a un discours dont je prends ce qu'il y a de positif, mais qui est en zigzag chez Emmanuel Macron, et je le dis, il faut que ça se traduise par des actions. Et ça, ce sujet, c'est pas comme si on parlait seulement d'un sujet lointain. C'est que la voix de la France dans les pays du Sud, pour qu'elle compte, faut pas qu'il y ait deux poids, deux mesures, et il faut qu'on nous entende là-dessus. C'est une chose. Et ensuite, vous savez, quand on a, dans notre pays, la première communauté musulmane et la première communauté juive, la paix civile, elle passe par des exigences de paix là-bas et des sanctions
et
là-bas.
Et d'ailleurs, les commentaires sur Gaza de LFI ont contribué à l'apaisement du pays.
Vous savez,
dans une émission politique,
je n'appartiens plus à la France insoumise, c'est très clair. Vous savez que c'était l'un des points de désaccord, puisque dès le 7 octobre après-midi, j'ai condamné les actes terroristes du Hamas en disant ma pleine empathie et plus pour les victimes dans les kibboutz israéliens. Maintenant, dès le premier instant, je l'ai fait. Mais à chaque instant, nous devons nous insurger contre ce qui est fait aujourd'hui au peuple palestinien.
Merci François Ruffin.
Merci à vous.
Vous restez avec nous pour la suite de questions politiques avec notre second invité pour le livre de la semaine.
France Inter. Questions politiques. Karine Bécart.
Bonjour Raphaël Dohan.
Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes l'auteur de plusieurs essais qui ne sont pas passés inaperçus. Vous venez d'en sortir un petit dernier aux éditions Passé Composé, Faire de la France une démocratie, sacré titre, qui nous permet tout de suite d'entrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Faire de la France une démocratie, ça veut dire quoi? Que nous ne sommes pas donc dans une démocratie. Qu'est-ce qui nous manque, Raphaël Dohan? Pardonnez-moi, j'ai toujours envie de dire Dahan, pardonnez-moi encore. Pourquoi est-ce qu'on ne serait pas vraiment dans une démocratie?
Alors je prends démocratie dans son sens originel, celui que les Grecs de l'Antiquité avaient inventé, qui veut simplement dire pouvoir du peuple, et qui voulait dire encore plus précisément que c'était le peuple qui faisait lui-même les lois. C'était pas des représentants. Et le régime représentatif qu'on connaît aujourd'hui, qui a été, disons, inventé depuis la Révolution française, n'était pas censé être une démocratie à l'origine. Les révolutionnaires n'ont pas voulu vraiment instaurer une démocratie qui, pour eux, renvoyait encore à l'idéal grec, donc du monde où les citoyens font eux-mêmes la loi. Alors, je dis pas qu'on doit passer à une démocratie directe, totale, absolue, mais on a quand même dans la Constitution française un outil qui est le référendum et qui sert à permettre, sur des sujets importants, à intervalles réguliers, de consulter directement les Français sur ce qu'ils veulent choisir, sur des grands projets de loi. Et ça fait 20 ans qu'on ne l'utilise plus. Donc c'est pour ça que je propose d'essayer de faire de la France une démocratie.
Alors on va parler du référendum, évidemment. Je reviens quand même sur, si on n'est pas dans une démocratie, on est dans quoi?
Alors on n'est clairement pas dans une dictature, c'est bien, voilà. Évidemment, c'est pas la question du tout. Mmh. On est dans un régime donc représentatif, qui est bien différent du sens philosophique originel de démocratie. On pourrait dire, si on reprend les termes classiques, qu'on est une sorte d'aristocratie élective, c'est-à-dire qu'on choisit certaines personnes pour nous représenter, on considère qu'elles sont censées être meilleures pour faire la loi, et on les élit à intervalles réguliers. Mais c'est pas tout à fait la démocratie.
Et vous êtes d'accord que la démocratie directe, dans un pays de 60 millions d'habitants, comme rappelait tout à l'heure Nathalie Saint-Cricq, ça n'existe pas, ça fonctionne pas, ça marche pas. Je me souviens de mon prof de droit constite qui disait « Mon Dieu, ça n'existe pas, 60 millions d'habitants, on ne peut pas faire une démocratie directe. »
Ça n'existe pas. Alors, au sens, disons, si on ne peut pas transposer le modèle athénien d'antiquité directement, voilà, parce qu'on ne va pas toutes les semaines sur une colline pour se réunir et voter toutes les lois. C'est dommage, peut-être, mais c'est difficile. Mais en revanche, on peut avoir quelque chose, un régime mixte, en fait, qui instaure des parts de démocratie où, sur des sujets importants, on fait voter les Français, et sur d'autres, les parlementaires.
Par exemple, alors, Nathalie, est-ce que le référendum, en général, moi, ce n'est pas mon prof de droit, mais c'est pas quelque chose, une question simple, à laquelle on répond par oui ou par non, auquel cas ça risque d'exclure toutes les choses d'une infime complexité qui est aujourd'hui. Je prends la question de la fin de vie. Est-ce que vous êtes pour ou pas ou contre l'euthanasie? N'aurait absolument pas, ou la fin de vie n'aurait absolument pas représenté les débats qu'il y a eu à l'Assemblée. Comment vous faites rentrer du référendum à une époque où les choses sont tellement compliquées, ou alors ça devient, êtes-vous pour ou contre le cancer? Êtes-vous pour ou contre...
Quelle question on pose sur la fin de vie? C'est une bonne question.
C'est très limité le champ, non?
De réponse. Le premier, c'est que le référendum, comme vous savez, ce n'est pas une question, en fait. C'est un projet de loi qu'on approuve ou qu'on refuse. Donc, on ne proposerait pas une question comme « Est-ce que vous êtes pour la fin de vie ?» Parce qu'effectivement, ça n'aurait aucun sens. Mmh. En revanche, on aurait un projet de loi qui aurait été élaboré par le gouvernement. Pourquoi pas même? C'est quelque chose
que vous êtes favorable
livre,
ou pas
une proposition de loi faite par les parlementaires. Mmh. Et après, la question, c'est est-ce que les Français approuvent ou pas le projet tel qu'il est
Comment ils ont accès s'il est très compliqué?
Eh bien, il y a un débat. C'est-à-dire, l'avantage des référendums, c'est aussi qu'on porte le débat dans la société, dans son ensemble, et qu'il y aurait 3-4 mois de débat national. Et d'ailleurs, je trouve que les exemples, par exemple, des référendums de 92 et 2005 sur la construction européenne, donc sur le traité de Maastricht et sur le traité constitutionnel européen, ont donné lieu à des vrais débats très intéressants, très fournis et riches sur la construction européenne. Et c'est peut-être les meilleurs débats qu'on ait eus en France sur, justement, l'avenir de la construction européenne de tous les temps.
Parce mais à l'époque, on avait su, effectivement, cadrer très sérieusement...
Ce qui est très important, bien sûr. Voilà. Mais le référendum, pour moi, est une manière de cadrer le débat, justement.
Ce qui m'avait frappé dans ces débats, c'est qu'au fond, les camps du non étaient à l'offensive, politiquement. et c'était les meilleurs. Je me souviens notamment de Séguin, des plaidoyers. Et au fond, quand vous regardez le résultat, c'est que personne aujourd'hui ne remet en cause la monnaie unique, et qu'au fond, il y a quand même un danger aussi sur la construction européenne. Maintenant, plus personne ne la remet en cause, et on en est même à se projeter une souveraineté européenne qui était la nôtre aussi. Donc, moi, je me méfie quand même de ces débats, parce que il peut y avoir des très bons tribuns, et ça ne va pas non plus dans le sens de l'intérêt général.
C'est toujours vrai, il y a toujours un risque de manipulation politique, mais en même temps, c'est le cas aussi pour les élections présidentielles ou législatives. On peut se faire avoir aussi par quelqu'un, une personne qui est particulièrement charismatique. Mais je dirais justement que les référendums, comme ça détache quand même le sujet de fond des questions de personnes, on a un peu moins de risques.
Je suis pas sûr.
Les débats étaient de bonne qualité.
C'est un merveilleux outil pour les populistes.
Mais surtout, on peut pas partir du principe dans une démocratie que les gens en fait se trompent et donc on peut pas leur donner leur avis.
Je voudrais qu'on pose la question à l'invité principal, François Ruffin. Pas assez de référendums, j'imagine, pour vous. Est-ce qu'il y a quand même un danger plébiscitaire? Elles n'ont pas tort, Nathalie et François.
D'abord, quand j'entends qu'il faut se méfier, il faut se méfier de quoi? Il faut se méfier du peuple. Je veux dire, on est en démocratie, normalement, supposément. Donc, le pouvoir est au peuple.
Est-ce qu'il a toujours raison, le peuple? C'est ça la question aussi.
La manière dont l'invité pose le débat, à savoir que justement, il doit y avoir débat, et que c'est au terme de ce débat éclairé que les Français tranchent, je suis moi profondément démocrate. Je me souviens du mouvement des Gilets jaunes, il y avait un chasuble sur lequel il était marqué « Faire l'amour une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie sexuelle. Voter une fois tous les 5 ans, ça n'est pas une vie démocratique. » Et les Gilets jaunes portaient dans leur réclamation le référendum d'initiative citoyenne. Oui, je pense que ce référendum d'initiative citoyenne, c'est un outil qu'on doit maintenant mettre en tous les Français. Les Suisses en ont un usage par le biais de la votation. Mais je crois que la question de la place de la démocratie dans notre pays, elle déborde du cadre du référendum. Les conventions citoyennes, et par exemple sur la fin de vie, mais ce qui a pu exister sur...
C'est bien ça ou pas? Ça va dans le bon sens?
Alors le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, quand tu touches un outil, il a tendance à le pourrir. Mais moi, je pense que la convention citoyenne est un bel outil. Alors moi, je serais pour qu'on en fasse un espèce de love story où il y aurait des caméras qui filmeraient ça et qu'on aurait une vidéo en direct sur LCP ou Public Sénat qui permettrait de s'identifier dans ce débat. Mais... moi, par exemple, sur la transformation du travail, je souhaite qu'il y ait de la démocratie au travail. Ça veut dire qu'il y ait de la démocratie par le haut, avec des représentants des salariés dans des conseils d'administration, mais la possibilité de prendre la parole sur son travail, à la base aussi. Mais en tout cas, la question de faire entrer pour de bon la démocratie, pas seulement par le biais du référendum, mais par des tas d'outils, me semble une question centrale.
Sinon,
on voit qu'on a un espèce de pourrissement
Raphaël
du pays.
Vous trouvez ça bien? C'est un bon outil ça...
Seulement si ça mène justement à des outils qui sont directement démocratiques, comme le référendum par exemple. C'est-à-dire que si c'est juste
Alors que là, on repasse par une loi, c'est un peu long.
Si c'est juste
écrasé.
Pour tirer au sort des citoyens, les faire discuter, et puis ensuite voir si jamais on reprend des idées, à la limite, on a déjà des think tanks pour faire ça. Donc c'est pas vraiment le but.
Je suis pas d'accord, parce que moi, je les ai suivis de très près, les conventions citoyennes. Je trouve que c'est formidable, parce que ça résout le sujet, c'est-à-dire qu'il y a tirage au sort, et puis il y a un débat sur des sujets extrêmement complexes.
Non,
il y a une élaboration, il y a une fierté de ceux qui y participent et une volonté, vraiment une mais là, et là, là où je partage aussi votre point de vue, c'est qu'il faudrait que ce soit visible des autres. Parce qu'une fois que la conclusion est faite, on l'oublie. Alors qu'il y a eu tout un travail d'élaboration extrêmement intéressant et je trouve que ça devrait être vu, télévisé, enfin mis en scène, parce que je trouve qu'on évite les dangers du référendum et on fait participer de très près les citoyens.
Raphaël Doir.
L'inconvénient, c'est que le système de tirage au sort n'est pas représentatif, justement. Il n'est pas démocratique en soi. Alors, on évoque souvent, d'ailleurs, la démocratie grecque pour valoriser le tirage au sort, mais on tirait au sort plutôt, en fait, les fonctionnaires que les gens qui décidaient la loi et les grandes questions communes. Donc pour moi, ça peut être des outils intéressants pour effectivement imaginer des politiques publiques, pour faire avancer un débat et progresser, mais ça peut pas être l'outil final avec lequel on décide de ce que nous voulons pour nous-mêmes.
Alors moi, ce qui m'inquiète quand même dans tout ça, moi je trouve que le référendum, la convention citoyenne, très bien, on débat, des débats éclairés, vous avez parlé tout à l'heure, est-ce qu'on peut encore avoir des débats éclairés à l'heure des fake news, à l'heure des ingérences, à l'heure de tout ça? Vous répondez quoi? Est-ce que les débats aujourd'hui sont sains et faciles à mener?
Alors je pense pas qu'ils soient sains et faciles à mener. Je suis pas sûr qu'ils l'aient jamais été, cela dit. Quand on voit justement les débats de la Révolution française, ils sont quand même très violents et ils sont aussi faits de fake news et désinformation.
Donc, d'influence.
Bon, faut pas non plus mythifier un passé où le débat serait absolument cordial et
parfait.
Et raisonné. Mais surtout, c'est quelque chose qui vaut. Enfin, c'est une menace menace qu'on doit affronter dans toutes les élections et dans tous les débats, quelle que soit la forme.
Regardez la peine de mort. C'était à une époque avec des populistes qui disaient regardez, peine de mort pour les assassins d'enfants aussi, on peut se dire ou l'avortement, quand certains députés faisaient entendre un supposé cri d'un enfant au moment de l'avortement, le cri du fœtus, on aurait un impact émotionnel sur les gens peut-être, qui sortirait du rationnel. Je ne suis pas contre,
mais moi je pense que justement, l'avantage du référendum, c'est qu'il y a un débat qui fait qu'on va sur les arguments de fond. Alors que si on laisse les parlementaires, donc, les gens se font des idées purement émotionnelles.
François Ruffin, vraiment, c'est possible un débat éclairé dans l'époque dans laquelle on vit
aujourd'hui? Moi je serais pour un débat éclairé qu'on passe une convention citoyenne sur les réseaux sociaux, sur les GAFAM et compagnie, qui aboutit sur un référendum qui tranche s'il y a des réseaux type TikTok qu'on souhaite interdire ou non. Mais moi, je suis démocrate. Et y compris, je pense que la question de l'avortement, on aurait eu l'avortement bien plus tôt dans notre pays si on avait eu un débat ouvert là-dessus. Et à mon sens, un débat sur la peine de mort, aujourd'hui, il n'est pas dit que si c'est au terme d'un débat...
60% des gens étaient contre à l'époque.
Mais
c'est
oui, mais ça c'est à froid.
Allez, merci.
Et une fois qu'on a le débat, on fait évoluer les gens. Moi,
merci.
Je crois à notre capacité encore à convaincre, à se convaincre les uns les autres.
Merci à tous, merci à tous les deux.
Et à trouver un chemin commun.
Merci Raphaël Dohan, c'est pas facile. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Faire de la France une démocratie aux éditions Passé Composé. Merci François Ruffin d'être venu ce dimanche sur le plateau de Questions Politiques. Merci à toute l'équipe, Fabienne Lemoyle à la rédaction en chef et à Maury Baucher à la programmation. Je vous souhaite une excellente fin de week-end et je vous dis à la semaine prochaine.